On termine cette émission de Ça vaut le détour sous le signe de la solidarité. Un groupe qu'on vient de découvrir, qui vient tout juste de lancer un nouveau service au début du mois de mai. C'est Solidarité de parents de personnes handicapées, SPPH. Et je joins au téléphone la coordonnatrice du soutien aux familles, Mme Caroline Lavoie. Bonjour, Mme Lavoie.
Bonjour, Mme Pomerleau.
Aujourd'hui, on va parler tout d'abord de solidarité de parents de personnes handicapées. J'aimerais que vous nous présentiez la mission et aussi justement ce beau projet que vous venez tout juste de lancer.
Parfait. Alors, ben écoutez, Solidarité de parents de personnes handicapées est un organisme qui est basé à Montréal et qui a été fondé en 1983 sous l'initiative de parents qui désiraient mettre sur pied un service de répit pour leur famille, chose qui existait peu à cette époque-là. Au moment là, de la fondation de l'organisme, on répondait aux besoins de 150 familles. Aujourd'hui, c'est plus de 500 familles là, qui peuvent bénéficier des services de solidarité de parents. Donc, c'est des parents d'enfants, on dit enfants, là, mais c'est enfants, jeunes adultes et adultes, donc de 0 à 30 ans, toutes déficiences, tout handicap. Donc, nos programmes là, sont assez divers, mais on a entre autres le soutien aux parents par le soutien individuel, mais aussi par les groupes de discussion, les soirées d'information. On a divers services de répit aussi, là, un répit d'épanage à domicile. On a un répit aussi qui permet, là, qui favorise en fait la conciliation travail-famille, qui est la tête en congé des vacances animées. Et on a un service qui s'appelle le Répit Plus, qui est plus dédié là, aux familles qui vivent des situations un peu plus complexes. On fait également, comme plusieurs organismes, là, de la défense de droit, bien entendu, de la concertation.
Mm-hmm. La défense de droit et concertation qui sont essentielles.
Absolument.
Et des sujets, justement, inévitables en ce moment. Parlons justement un peu de l'importance du répit pour les proches aidants d'une personne en situation de handicap.
Oui, ben, en fait, le répit est souvent identifié par les familles là, comme étant un besoin prioritaire. Hein. On a besoin de repos pour sortir un peu la tête de l'eau puis voir un petit peu plus clair. Puis il ne s'agit pas toujours d'avoir là, une fin de semaine de répit. Hein. Les parents ressentent aussi les bénéfices d'un répit, là, même s'il est de courte durée. En fait, il permet là, de reprendre son souffle, de passer du temps avec les autres enfants ou avec le conjoint, de faire des démarches aussi, puis de mettre là, ses idées en place, puis ensuite être un peu plus disponible là, pour son enfant.
Et le répit, justement, il n'est pas bénéfique que pour le parent. C'est l'enfant ou le jeune adulte handicapé en tire aussi des avantages.
Oui, absolument. C'est sûr que la fratrie, hein, c'est vraiment eux qui en tirent le plus grand bénéfice parce qu'ils peuvent avoir leurs parents pour une courte période. Bon, souvent, là, c'est l'enfant qui présente des défis, qui a le plus d'attention des parents, et c'est normal. Donc, la fratrie, en fait, les frères et sœurs peuvent en souffrir un peu. Puis pour la personne elle-même, c'est sûr que si c'est une personne qui est plus vers jeune adulte à adulte, elle va développer son autonomie pendant des périodes de répit. Puis pour les tout-petits, eux, ben ça va développer leur confiance dans les personnes de l'extérieur. Donc, le cordon, si on veut, là, va un petit peu se couper de cette façon-là.
Et vous avez créé récemment un portail regroupant les services de répit. À qui s'adresse ce portail? Quelle forme prend-il?
Bien, en fait, le portail s'adresse principalement aux parents d'enfants handicapés, mais aussi aux différents intervenants et aux professionnels là, qui gravitent autour de la famille. Donc, c'est vraiment un portail qui est facilement accessible aussi, qui est accessible par le web, donc Internet, que les parents peuvent utiliser là, quand bon leur semble.
Et que retrouve-t-on sur ce portail?
Bien, en fait, c'est des organismes qui offrent des services de répit. Donc, le répit peut être de différentes formes. Ça peut être du répit de longue ou de courte durée, à domicile ou en maison répit. Ça peut être des haltes garderies, ça peut être de l'accompagnement, mais ce sont vraiment des ressources principalement qui sont communautaires. Donc, les ressources, je vous dirais, plus privés ou les entreprises privées de répit ne sont pas vues là, sur le portail. C'est vraiment pour les petits organismes.
Pourquoi avoir fait ce choix-là?
Bien, en fait, c'est qu'on veut donner vraiment l'espace à des groupes qui ont peut-être un petit peu moins le réseau de diffusion ou la possibilité de se payer soit un site Internet ou de la publicité et qui ont aussi comme mission première là, les familles. C'est vraiment le cœur de leur mission, c'est les familles, donc c'est à eux qu'on veut donner le plus de place.
Mm-hmm. Est-ce que c'était un besoin que vous aviez remarqué, ce manque d'informations sur les ressources de répit disponibles?
Oui, ben en fait, il y a beaucoup de bottins qui sont faits pendant l'année par différents intervenants, mais c'est quand même des bottins qui sont statiques, donc souvent papier, qui peuvent être utilisés pendant une année, deux ans, mais dont l'information change rapidement. Donc, par le portail, l'information peut être mise à jour régulièrement par la ressource elle-même. Donc vraiment, là, c'est du au jour le jour. Là.
Est-ce que tout le territoire du Québec est desservi par le portail?
Oui, ben en fait, nous, ce qu'on vise, là, c'est que le plus d'organismes possible à travers le Québec soient présents. Pour l'instant, on en a une trentaine qui sont... Oui, principalement à Montréal, mais on a aussi des organismes des Laurentides, de la Naudière, de l'Estrie. On a même le Bas-Saint-Laurent qui est représenté. Mais vraiment, là, c'est une année de développement cette année. Donc, on vise là, encore plus large.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des critères pour l'inscription des organismes?
Ben, en fait, il faut que ce soit, comme je disais tout à l'heure, là, un groupe communautaire ou une petite ressource qui est reconnue par son milieu et qui offre du répit. Idéalement régi par un conseil d'administration qui a aussi peut-être des subventions, donc ça nous donne certaines peut-être qualités, mais c'est vraiment des ressources qui doivent être communautaires le plus possible.
Madame Lavoie, est-ce qu'il faut s'inscrire pour avoir accès au portail? Comment est-ce que ça fonctionne si on voit qu'il y a peut-être une ressource qui nous conviendrait? Vous êtes là pour présenter la ressource, mais vous ne faites pas nécessairement le lien.
Non, on ne fait pas nécessairement le lien. En fait, le parent ou l'utilisateur qui trouve une ressource, à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'être inscrit au portail pour l'utiliser. Par contre, s'il trouve une ressource intéressante, c'est très, très possible que la ressource demande qu'il y ait un contact de fait entre le parent ou l'utilisateur et la ressource elle-même pour peut-être devenir membre de cette ressource-là. Mm-hmm. Donc ça, quand le parent trouve finalement la ressource qui fait son affaire ou il y a une place de disponible, il n'y a qu'à cliquer sur le petit bouton « En savoir plus » et toutes les informations sont données là pour les critères d'adhésion, la façon de s'inscrire à cette ressource.
Le portail a été lancé le 5 mai dernier. C'est donc près d'un mois bientôt d'existence officiellement. Est-ce qu'il est déjà beaucoup utilisé?
Bien, en fait, comme je vous le disais, il y a une trentaine de ressources qui sont déjà inscrites et qui annoncent leurs services et leurs places disponibles. On sait que des familles ont déjà commencé à les contacter. Et du côté du réseau, ben il y a l'OPHQ, donc l'Office des personnes handicapées du Québec, qui fait circuler l'information aussi à travers les régions, et les centres intégrés de santé et services sociaux montréalais, qui diffusent l'information à leurs intervenants terrain. Donc, ça va vite arriver vers les parents, et puis tous les groupes communautaires là, du milieu des personnes handicapées sont des possibles diffuseurs d'informations aussi.
Ce sont votre principale stratégie de communication actuellement?
Oui, pour l'instant, c'est notre stratégie, effectivement.
Je pose la question à certains de mes invités cette semaine parce que c'est le début de la Semaine québécoise des personnes handicapées ce mercredi, donc jusqu'au 7 juin. Qu'est-ce que ça signifie pour vous?
Bien, écoutez, une semaine, c'est très bien. Hein? Dans une année, c'est bien de souligner la présence des personnes handicapées, le souhait qu'on a qu'elles participent activement à la société, mais une semaine, c'est très peu dans une année. Hein? Sur 52 semaines, on apprécierait qu'ils soient reconnus à travers chacune des journées, des semaines de l'année.
Ainsi aussi que leur entourage.
Absolument.
Vous qui êtes la solidarité de parents de personnes handicapées, on parle beaucoup de l'importance des proches aidants, du rôle clé qu'elles occupent auprès des personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est une occasion, lors de cette semaine-là, de reconnaître leur contribution?
Oui, c'est une occasion de reconnaître, en fait, oui, leur contribution, mais aussi que ce sont des parents, d'abord et avant tout. Ce n'est pas des professionnels auprès de leurs enfants. On demeure des parents, même si notre enfant présente des défis. Et effectivement, de l'importance qu'ils ont dans l'équation vers un développement optimal là, de leur enfant.
Merci beaucoup. Caroline Lavoie, coordonnatrice du soutien aux familles à Solidarité de parents de personnes handicapées. Bravo pour votre portail répit. On va suivre ce développement avec intérêt dans les prochains mois.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée.